Vous écoutez
RMC.
Il est 8h sur RMC et RMC Story. Un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Vous avez bien fait de choisir RMC puisqu'à 8h c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous, on vous emmène ce matin sur RMC à Reims, dans une des 5 nouvelles boutiques Chine qui ouvre là ce matin, 3 mois après la première à Paris. Le groupe chinois, vous verrez, continue de se déployer en France. On vous détaille aussi sur RMC le contenu de l'ordonnance de mise en accusation du footballeur Achraf Hakimi, renvoyé devant une cour criminelle pour le viol d'une jeune femme il y a 3 ans. Et on va vous expliquer aussi pourquoi on passe soudainement d'un record de pluie un record de douceur.
Et c'est donc l'acte 2 du déploiement de Shein en France.
Oui, vous vous souvenez du lancement de la première boutique à Paris, c'était en novembre. Eh bien, il y en aura 5 de plus à partir de ce matin à Grenoble, Reims, Limoges, Angers et Dijon, dans les anciennes galeries devenues depuis des BHV. Ça a pris plus de temps que prévu face au tollé et toutes les critiques concernant l'ultra fast fashion. Célestin Bougère s'est donc rendu au BHV de Reims où une nouvelle boutique va ouvrir.
Nathalie range une chemise dans sa boutique de prêt-à-porter pour femmes quand on lui apprend que le Corner Shein au BHV va ouvrir aujourd'hui à quelques pas de là.
Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Ma boutique, ça fait 3 ans, donc j'ai déjà une bonne clientèle.
Mais il suffit de prononcer le nom de la marque chinoise pour susciter un débat entre la vendeuse et ses clientes.
Vous achetez un électroménager, c'est chinois aussi.
Arrivé de Chine, ça vous en pensez quoi?
Je suis contre parce que on ne sait pas trop comment c'est fabriqué. Il y a tout qui s'en va en fait.
Cette autre commerçante indépendante en prêt-à-porter pense que son chiffre d'affaires ne sera pas impacté. Mais c'est le symbole qui la dérange.
Nous, on n'a pas trop envie de les voir arriver. On est sur des éthiques complètement différentes. Donc forcément, les marges sont beaucoup moins importantes et c'est un peu plus cher, mais bon, il y a un peu plus de respect, quoi.
À l'intérieur du BHV, le sous-sol s'apprête à accueillir l'espace Shein. Certains clients sont impatients.
J'ai déjà commandé sur Shein, donc en vrai, ça peut être pas mal de voir si les prix, c'est pareil que sur le site.
D'autres ont encore en tête les polémiques de ces derniers mois.
Avec les poupées sexuelles de taille enfant, la vente d'armes complètement ouverte à tous. Moi, je n'irais pas du tout.
De leur côté, les propriétaires du BHV assurent que l'implantation de Shein participera au dynamisme économique de la ville.
Alors, autre information du matin, celle-ci concerne le groupe SEB qui envisage de supprimer un peu plus de 2000 postes partout dans le monde, dont 500 en France sur la base du volontariat. Voilà ce que dit le groupe d'électroménagers qui l'explique, sa recherche à faire des économies. C'est dans ce contexte économique que les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui pour tenter de se mettre d'accord sur les nouvelles règles concernant les ruptures conventionnelles. Les ruptures de contrat à l'amiable, en quelque sorte. Ça permet de toucher le chômage, c'est la différence avec les démissions. Ça coûte trop cher, estime l'État, qui pousse pour un durcissement des règles. L'idée étant de réduire les durées d'indemnisation. Écoutez ce qu'on en pense à Bordeaux avec notre correspondant RMC Pierre Bourgès.
Il y a 4 ans, Adrien décide de quitter son travail pour créer son entreprise. Il demande alors une rupture conventionnelle que son patron accepte.
Il a fait le choix de pouvoir bénéficier du chômage qui était une chance. Et du coup, l'argent qui était généré par l'entreprise, ça nous a permis aussi de recruter et de créer des emplois derrière.
Cette indemnisation lui a permis de gagner près de 2000 euros par mois pendant 18 mois. Et si son entreprise a aujourd'hui plus d'une dizaine de salariés, c'est en partie grâce à cette aide au départ, selon lui. Alors réduire à 15 mois la durée de l'indemnisation, ça ne le convainc pas.
15 mois, ça peut être trop juste. L'enjeu est peut-être pas sur réduire la durée, mais peut-être mieux filtrer les cas qui sont éligibles à la rupture conventionnelle.
Cette proposition du patronat prévoit aussi de diminuer de 30% l'indemnité chômage au bout de 6 mois pour certains allocataires. Une mauvaise idée pour Ludovic Rocher. Ce patron estime que le dispositif actuel bénéficie aussi bien aux salariés qu'à leurs employeurs.
L'inconvénient, c'est qu'il va moins facilement se projeter dans une sortie de sa société et qu'on va laisser des salariés rester en poste alors qu'ils ne sont pas contents de la situation. On va faire perdurer des situations qui n'ont pas intérêt ni pour l'entreprise ni pour le salarié en fait.
Il craint que cette évolution entraîne aussi davantage de situations conflictuelles en entreprise.
C'est en Conseil des ministres ce matin qu'Emmanuel Macron devrait nommer Christophe Le Ribaud à la tête du musée du Louvre, lui qui est actuel président du château de Versailles et qui va donc certainement remplacer Laurence Descartes qui vient de démissionner dans la foulée de toutes les affaires et du cambriolage au mois de novembre. On vous détaille ce matin sur RMC donc l'ordonnance de mise en accusation du footballeur Achraf Hakimi, vous le savez, renvoyé devant une cour criminelle pour le viol qu'il conteste d'une jeune femme en février 2023. Pierre Bazin du service police-justice à RMC, c'est vous qui avez consulté pour RMC cette ordonnance de mise en accusation après 3 ans d'enquête dans cette affaire. Oui, dans ce document de 21 pages, il y a d'abord le récit constant et circonstancié de la plaignante, selon la magistrate instructrice. Malgré des approximations, elle décrit une soirée en tête-à-tête chez le footballeur, durant laquelle Achraf Hakimi se serait montré insistant, multipliant les contacts physiques et allant jusqu'à la pénétrer avec ses doigts. Ce soir-là, celle que nous appellerons Manon envoie des SMS à l'une de ses amies. « Je t'en supplie, dépêche-toi, il me viole ». Hakimi lui nie les faits. Il accuse par ailleurs la plaignante de chantage. Un SMS relevé par la juge d'instruction est mis en avant. Message dans lequel l'ami de la plaignante écrit « On va le dépouiller ». Manon défend une plaisanterie. Pourtant, plus tard, cette même amie cherche à faire disparaître des messages préjudiciables, selon ses mots. Par ailleurs, les avocats du footballeur reprochent également à la plaignante de ne pas avoir remis plusieurs éléments demandés par les enquêteurs, notamment son téléphone.
Alors, pas de commentaire de la part du Paris Saint-Germain, qui jouera ce soir à 21h, c'est le club d'Hakimi, contre Monaco ce match. Barrage de Ligue des Champions, c'est le match retour. Les Parisiens avaient gagné 3-2 le match aller. Arthur Perrault, vous suivez le PSG tout au long de l'année pour RMC. On est bien d'accord que là, c'est la suite de la saison qui se joue ce soir pour les Parisiens.
Oui, et pour l'entraîneur parisien Luis Enrique, le match est loin d'être joué d'avance.
On est dans une compétition qui est différente. Après les matchs, il y aura une équipe dans ce match éliminé et ça répercute de la difficulté. Monaco va commencer ce match derrière un but. Il y aura des moments très compliqués, très difficiles et il faut savoir gérer ces moments. Et ce que nous pensons, c'est la meilleure manière de jouer ce match, c'est comme d'habitude. Chercher à gagner le ballon, chercher à avoir plus le ballon que l'adversaire, chercher à presser de la même manière, il n'y a pas résultat à défendre, il y a un match à gagner.
À l'aller, le PSG avait réussi à remonter un retard de 2 buts pour s'imposer. Un scénario qui pourra servir ce soir d'après Désiré Doué, l'attaquant parisien.
On a surtout gardé le positif de ce match-là et notre capacité à revenir dans un match où on est mené 2-0 à l'extérieur, c'est jamais facile, surtout en Ligue des Champions. Et il faut qu'on fasse la même chose. C'est ce qui va nous emmener à gagner ce match et les prochains matchs. Ça sera très important.
Le PSG a de quoi être optimiste. Il ne s'est plus incliné à domicile contre Monaco depuis le 21 février 2021.
Bon, et on est obligé d'en parler. On est au lendemain d'un des plus grands exploits, certainement, de l'histoire de la Ligue des Champions. La qualification des Norvégiens de Bodø Glimt, qui a éliminé l'Inter, finaliste quand même de la saison dernière, en les battant à l'aller et au retour, donc encore hier soir. Historique pour ce club de Norvège, donc qui est situé au nord du cercle polaire. Ouais.
Non, mais c'est inédit. Aller, retour, les deux victoires. À l'aller, il y a un accident. Non, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors ce matin, si vous ne savez pas comment vous habiller pour aller au travail, c'est un peu normal parce qu'on passe d'une extrême à l'autre en ce moment.
Géraldine Demory, on passe effectivement d'un record de 40 jours de pluie pour le début de l'année à un record de 12 heures pour un mois de février. Comment ça se fait?
Alors déjà, on a retrouvé un anticyclone qui nous est défaut depuis début janvier. Et c'est un anticyclone qui arrive par le sud-ouest. Et c'est une position qui est plutôt inhabituelle à cette période de l'année. Et qui pousse du coup une masse d'air qui est particulièrement chaude. Donc ça a concerné surtout le sud-ouest hier. Ça arrive maintenant sur la moitié nord aujourd'hui. Les températures finalement vont baisser en fin de semaine. Mais on restera toujours au-dessus des normales. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un pic de douceur pour aujourd'hui. Mais en réalité, on est au-dessus des normales de saison depuis le 12 janvier. Et on n'avait jamais vu une séquence de douceur aussi longue en hiver. Et c'est vrai que ce soit les crues exceptionnelles ou la douceur hors norme, ce sont deux manifestations en tout cas du dérèglement climatique.
L'alerte rouge est levée pour les départements qui étaient concernés jusque-là pour les inondations. La décrue continue, on n'oublie pas, le niveau de l'eau a baissé d'une trentaine de centimètres en 24 heures à Angers, seulement d'une dizaine à Saintes où c'est un petit peu plus lent.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal, il est 8h08 sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et on retrouve Emmanuel Lechypre pour l'économie. Rebonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
L'épargne populaire entre dans une zone de turbulence.
Oui, parce que de gré ou de force, les Français qui possèdent des produits d'épargne populaire doivent prendre aujourd'hui des décisions importantes. Et on parle de quasiment tous les Français, puisque sont ouverts aujourd'hui 58 millions de livrets A, 12 millions de livrets d'épargne populaire et 9 millions de plans d'épargne logement. Tiens, le plan d'épargne logement, parlons-en justement. Ce placement qui permet à la fois de placer son épargne, rémunérée à 2% depuis le 1er janvier, et d'obtenir aussi un crédit immobilier à un taux avantageux. Eh bien, attention, à partir du 1er mars, sa durée de vie est limitée à 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui se trouve sur les plans souscrits en 2011, eh bien, sera automatiquement versé sur un livret d'épargne classique et ces plans d'épargne logement seront fermés et après, tous les plans d'épargne logement signés après 2011, eh bien, s'éteindront progressivement au bout de 15 ans. Attention, pour ceux qui sont antérieurs à 2011, là, rien ne change. Donc, tout ça, c'est de l'argent qu'il va falloir gérer, qui va se retrouver sur de l'épargne classique et qu'il va falloir gérer. L'épargne populaire populaire classique.
Ça, on le répète assez souvent, le livret A, de moins en moins intéressant.
Oui. Parce que effectivement, cet argent, il va arriver où il va arriver sur des livrets, etc. Mais c'est vrai que ce livret A et le livret de développement durable et solidaire, eh bien, c'est de moins en moins intéressant. Ça n'échappe pas aux Français d'ailleurs, hein, qui ont retiré de ces deux placements plus de 2 milliards d'euros en janvier. C'est du jamais vu depuis 2009. Jamais on a vu un début d'année aussi mauvais. Il faut savoir qu'en janvier, d'habitude, les gens mettent de l'argent sur leur livret A. Eh bien là, ils en ont enlevé. L'explication, bah, vous vous doutez bien que c'est le taux qui est redevenu très peu intéressant. 1,5% depuis le 1er février. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui, du coup, vont laisser dormir leur argent sur leur compte en banque, et ça n'est pas non plus la solution.
Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Où est-ce qu'on place ces économies, Emmanuel?
Alors, très clairement, c'est la fin des grandes années pour l'épargne populaire. Songez que, quand même, elle avait augmenté de 70% depuis 2015. Pourquoi? Bah, parce qu'elle était bien rémunérée, et que l'assurance-vie, à l'époque, rapportait peu, puisque les taux d'intérêt étaient globalement très bas, hein. Mais là, le balancier est en train de repartir vers l'assurance vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien voir que cette épargne qu'on a sur le livret A, sur toute l'épargne réglementée, c'est l'épargne avec laquelle on ne veut pas ou on n'a pas les moyens de prendre des risques. Donc c'est la stratégie, ce que moi j'appelle la stratégie des cascades, ou bien la stratégie un peu plus chic de la piscine à débordement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une épargne avec laquelle vous ne pouvez pas prendre de risque. Donc vous allez massivement sur, effectivement, par exemple, l'assurance vie avec les fonds en euros, qui vont rapporter plus, hein, 2,7% cette année. Même avec les impôts, ce sera mieux que le livret A. Là, vous prenez pas de risque. Et puis, avec ce que vous considérez comme de moins en moins indispensable, et ben hop, avec ce qui déborde. Donc voilà, vous allez aller vers, par exemple, de l'assurance vie plus en unité de compte, un peu plus risqué, et puis la bourse, et puis un peu d'or, c'est bien aussi. Et puis regardez, le Bitcoin, là, il s'est quand même beaucoup cassé la figure. Ah, c'est peut-être pas inintéressant. Mais voyez, vous pouvez aller prendre un peu plus de risques comme ça
avec ce qui déborde,
avec l'épargne dont vous pensez.
Pensez pas dans le toboggan direct, voilà, prenez la piscine à débordement.
Exactement.
On regarde l'image.
Exactement.
Aquatique.
Exactement.
Et dans 10 minutes, on vous envoie chez Bellambra en plus. Merci Manu Le Chiffre, il est 8h11 sur RMC. Tiens, Jean-Claude est avec nous en direct de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour mon cher Jean-Claude.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous entendre, Jean-Claude. Alors ce matin, je recevais le numéro 2 de la CGT, Denis Gravouille, et on a entendu Marie-Laure à Tours qui nous disait qu'elle a été plus ou moins forcée, poussée à accepter une rupture conventionnelle après le rachat de sa boîte. Et le représentant de la CGT nous disait en substance que les patrons mettent la pression. Vous avez eu, et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir vous entendre, l'effet inverse des salariés qui vous mettent l'effet la pression inverse. D'une autre manière.
Exactement, l'effet inverse. En 28 ans que je suis propriétaire de ma station, j'ai eu 3 personnes qui ont voulu faire des ruptures conventionnelles à partir du moment où elles ont été mises en place. J'ai considéré que ce n'était pas justifié puisque bon, ils ont un bon salaire, ils ont des horaires et je pense que je suis pas un patron trop mauvais. Et ben le résultat, c'était simple, à 3 fois la même chose, arrêt de travail derrière. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Bien sûr, ouais, quand ils vont voir les médecins, c'est où ils ont mal au dos, ou ben ils sont stressés par le travail. Alors c'est vrai qu'on est ouvert 24 heures sur 24, donc on a une clientèle qui est des fois un peu excessive, mais bon, ils sont protégés, ils ont...
Mais vous, Jean-Claude, dans votre station-service, voilà. C'est important de l'entendre avec ces mots, c'est suite au refus de votre part d'une rupture conventionnelle que vous avez eu ces arrêts de travail et finalement cette autre manière de mettre la pression. Donc à la fin, vous avez fait
donc,
quoi
du coup... Ah bah, du coup, au bout d'un moment, vous êtes obligé d'accepter de faire cette transaction, c'est-à-dire faire une rupture conventionnelle, parce que ça déséquilibre le travail de tout le monde, donc il faut réembaucher, on peut pas tant qu'ils sont en arrêt de maladie. Parce que les CDD, les gens, ça les intéresse pas. Alors, quand vous leur dites, j'ai un CDD, mais peut-être de 15 jours, peut-être de 1 mois ou 3 mois, selon les maladies, les gens veulent pas venir travailler. Et comme les employés, quand ils se mettent en maladie, on leur paye le complément de salaire, ils perdent rien, donc eux, tout va bien, mais pour l'entreprise, c'est une difficulté.
Non, mais cette histoire de rupture conventionnelle, c'est intéressant. Hein, entre le patronat, les salariés d'un côté, le gouvernement de l'autre, finalement, l'impression parfois que patronat et salariés se mettent d'accord pour se rincer sur le dos de l'assurance chômage. Il y a 400 millions d'euros d'économies à faire, c'est ce que dit le gouvernement. La négociation commence, reprend, si j'ose dire. Jean-Claude, merci beaucoup de votre appel au 32-16 ce matin.
Eh bien, merci beaucoup, passez une bonne journée.
À très bientôt, bonne journée à vous. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC tous les jours de manche.
8h17 sur RMC, il a pris quelques jours de vacances, mais il est quand même un peu avec nous, le meilleur d'Arnaud de Manche. Bonjour tout le monde, les amis, ce matin, avant de vous parler d'actu, j'ai envie de vous faire du bien, j'ai envie de vous donner un petit parfum de vacances, on part à la plage. Pascal, prenez votre maillot, tout le monde, car le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio...
Il y a un truc qui ne va pas dans votre phrase.
Non, mais non, c'était juste histoire d'aller à la plage. C'est pour vous parler de cette actu, le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio, propose d'interdire certaines plages aux jeunes, à certains créneaux horaires. Alors là, Jean-Marc Morandini est très remonté. J'ai écouté l'émission, il disait « Et ce matin, dans Morandini Live, on va critiquer pour la première fois le RN dans cette émission avec la décision révoltante de Franck Alizio parce qu'on interdit tout aux jeunes, les trains, les restaurants, les plages, pourquoi pas les saunas naturistes, les backrooms et la fistinière. » Alors vraiment, on en parle avec mes invités, le cardinal Barbarin, Gabriel Madeneff et Théo. Bonjour Théo, assieds-toi. J'imagine que parfois tu aimes te mettre en maillot de bain. Tu peux nous montrer ? Alors, pas de jeunes, voilà. Non. C'est plus une plage, là, c'est le Conseil constitutionnel. On va s'emmerder sur une plage sans jeunes. Même si ça existe déjà à La Baule, à Nice. Mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes tout court dans la ville.
C'est pas qu'ils sont interdits.
Non, il y a des baigneurs oranges avec des poils blancs sur le torse, en mini-slip brillant, qui avancent prudemment sur les galets pour essayer de ne pas se péter le col du fémur avec leur femme qui leur dit « Oh, Valentin, tu fais un burn-out !» Non, Pauline, hein, c'est pas possible, je suis à la retraite depuis 30 ans.
Si, si, regarde ton slip, il y a la droite qui dépasse. Oh non, oh non.
Enfin bref.
Comment je ne l'ai pas vu venir?
Bah, enfin, elle était tellement évidente. Puis c'est un classique en plus. Hein.
Jack Lang est plusieurs fois cité donc dans ses documents relatifs à l'affaire Epstein. Il a déclaré assumer ses liens passés avec le financier américain.
Oui, alors ça, je voulais le faire le sujet parce que je vous ai entendu dans le couloir tout à l'heure dire à tout le monde « Mais c'est dingue! Mais c'est dingue! Mais t'as vu les articles? Oh, c'est fou, non? T'as vu cette affaire? Jack Lang est encore vivant !» Eh oui, Jack Lang dans les dossiers Epstein.
Qui aurait pu prédire?
Mais je suis comme vous, je suis ébobi. Autant Jacques Delors, on n'aurait pas été surpris. Hein, cette petite allumeuse de Raymond Barre, on l'aurait vu venir. Baladure, la chaudasse, là, on l'aurait vu.
Évidemment. Oh, je suis une chaudière.
Moi aussi. Ouf, ouf, ouf. Là, gèle-moi avec des poireaux.
Mais qui est encore Raymond Barre?
Mais non, mais...
Ce petit dialogue Baladure-Raymond
Barre. Un petit parfum années 80, quoi. Allez, ouais. On est jeunes. Mais Jack Lang.
Non.
Jack, pas maintenant, Jack. Pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Alors, dans le communiqué de Jack Lang à l'AFP, l'ancien ministre de la Culture précise « C'est Woody Allen qui m'a présenté Jeffrey Epstein ». Woody Allen, quoi, il y avait quand même un petit indice. « Mr. Lang, je vous présente ma femme, qui est aussi ma fille, et mon meilleur pote, Jeffrey, qui va nous emmener à bord du Lolita Express sur l'île du plaisir ». Oh, merveilleux, enchanté. Monsieur Lang, vous avez des préservatifs? Pas besoin, je suis déjà tout en plastique. Il y en a un qui doit avoir le seum là-dedans, c'est DSK. C'est la honte. C'est le seul homme blanc riche et puissant de sa génération qui n'est pas sur les listes. Il n'est pas invité. Ouh, le loser. C'est pour ça qu'il allait dans des clubs glauques à la frontière belge, là, avec Dodo la Saumure et deux, trois vieilles travailleuses du sexe, flamandes et édentées. C'est parce que il était pas sur le Lolita Express, il avait pas le droit. Si ça se trouve, il était sur la liste noire du prédateur sexuel. Jeffrey, il disait, ah non, non, pas DSK. Trop obsédé, c'est un taré, lui. On va avoir des emmerdes. J'en veux pas. 8h21 sur RMC et RMC Story. Vous savez, à 8h21, vous savez ce qu'on fait, hein ? Eh ben, on accueille quelqu'un qui peut-être va partir en vacances grâce à RMC, qui ne sait pas encore qu'il ou elle a gagné. Allez, on prend, c'est parti. Bonjour Léo.
Bonjour.
Léo, vous êtes en Haute-Loire.
C'est ça.
Et vous partez en vacances. Félicitations.
Ah, je vous remercie, c'est incroyable, merci beaucoup.
Vous avez remporté un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. 45 destinations, vous allez pouvoir choisir tranquille parmi les plus beaux endroits de France. 45 destinations, vous avez plus envie de montagne, de mer, vous avez une envie particulière?
Plutôt de montagne, je pense. On va tester ça l'été. J'ai une petite qui arrive le 8 mars, donc c'est génial.
Bah écoutez, petite qui arrive le 8 mars, félicitations en avance Léo. Et puis vous savez quoi, en plus Bellambra s'occupe des enfants, des activités, des repas. Bon, elle sera un peu petite, un peu jeune encore, mais vous allez bien profiter mon cher Léo. Je suis très heureux de vous offrir ces vacances, félicitations.
Merci beaucoup, merci RMC, salut.
Et merci d'avoir joué, merci de votre fidélité mon cher Léo, il est 8h22. Dans un instant, le face-à-face avec Marie Chantrey qui reçoit Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Ça, c'est à 8h30 sur RMC et BFM TV.
Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La mémoire de Quentin n'appartient pas à des groupuscules extrémistes, mais à tous les Français. Ce sont les mots ce matin sur RMC de l'avocat des parents de Quentin Derenck, ce jeune identitaire inhumé hier après son lynchage à mort par des militants d'ultra-gauche de la Jeune Garde, dont la reconstitution post-dissolution fait désormais l'objet d'une enquête par le parquet de Paris. Achraf Hakimi, renvoyé en procès pour viol à la demande de la juge d'instruction, qui met notamment en avant la cohérence de la victime présumée, selon l'ordre ordonnance de mise en accusation qu'RMC a pu consulter. Le Marocain a annoncé faire appel de cette décision pour tenter d'éviter le procès. Qui pour succéder à Laurence Descartes à la tête du Louvre, 4 mois après le casse du siècle, Emmanuel Macron a accepté hier la démission de la présidente du plus grand musée du monde. Et il devrait annoncer ce matin en Conseil des ministres le nom de son successeur, probablement l'actuel président du château de Versailles, Christophe Le Ribaud. L'Assemblée se prononce à nouveau sur la loi pour une aide à mourir aujourd'hui, proposition qui va ensuite repartir au Sénat. Et puis c'est le grand jour pour Shein qui s'installe dans 5 villes françaises. 3 mois après Paris, la marque d'ultra fast fashion prend ses quartiers dans les boutiques BHV de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Ouverture prévue à 10h. Le groupe d'électroménager Seb envisage de supprimer jusqu'à 2100 postes, soit moins de 7% de ses effectifs dans le monde et potentiellement 500 emplois en France sur la base du volontariat, annonce ce matin du groupe en marge de la présentation de ses résultats. En football, le PSG va tenter de valider son billet pour les 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir face à Monaco. Autre affiche, le match retour Real Madrid-Benfica après une première rencontre marquée par des accusations de racisme. Rendez-vous à 21h sur RMC. Côté météo, pic de douceur aujourd'hui avec des températures dignes d'un mois de mai, parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, il fera 11 à Strasbourg, 15 à Dijon, 16 à Perpignan, 18 à La Rochelle, 19 degrés à Lyon et Grenoble, 21 à Bordeaux. Et puis c'est enfin le retour du soleil après la dissipation des grisailles matinales. On pourra avoir un peu plus de nuages vers le golfe du Lion.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres. Merci Élise Dangean. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey reçoit Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h29 sur BFM TV et RMC. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin parce que votre voix compte, elle est attendue. Vous êtes, je le disais, le coordinateur de la France Insoumise, votre parti qui fait l'objet depuis maintenant une quinzaine de jours de très nombreuses critiques. On va y revenir point par point et prendre le temps des critiques que vous avez aussi beaucoup formulées vous-même. Votre parti, plus généralement, à l'encontre de la presse, des médias que vous qualifiez de traditionnels. En étant face à moi ce matin, Manuel Bompard, finalement, les vieux médias jaloux sont quand même un peu fréquentables.
Mais moi, vous savez, j'ai toujours considéré que, malgré le traitement que je trouve, pardonnez-moi, particulièrement abject à l'égard de la France Insoumise, il fallait aller mener la bataille politique partout, et y compris dans les médias. Mais là, vous faites référence dans votre question à une initiative que nous avons organisée lundi, qui est une rencontre avec ce qu'on a appelé les nouveaux médias, c'est-à-dire les médias qui sont présents exclusivement
sur la
scène numérique. Et je trouve que la réaction qui a suivi de ce que j'ai effectivement appelé des vieux médias jaloux, un petit peu pour les taquiner.
Vous nous avez dit pleurnichard.
Je trouve ça assez extraordinaire. C'est-à-dire,
C'est des méthodes quand même. Vous avez refusé d'accréditer certains considérez comme traditionnels.
Madame.
Des méthodes que vous critiquiez d'autres parties il y a encore pas si longtemps.
Madame, il y a des médias, des nouveaux médias qui émergent aujourd'hui, qui sont des médias numériques, qui sont parfois des influenceurs, parfois des chaînes YouTube, parfois. Et c'est un nouvel espace médiatique.
Ils peuvent pas se retrouver ensemble.
Mais ce nouvel espace médiatique, c'est légitime de pouvoir lui donner de la place, de lui donner de l'espace. Vous pouvez pas considérer comme ça. Il y a que vous qui avez le droit de traiter l'actualité médiatique. Alors c'est pas parce qu'on fait un moment réservé à des nouveaux médias numériques que par ailleurs on parle pas aux médias plus traditionnels. On fait les deux.
Je reviendrai sur la qualification d'abject du traitement. Et encore une fois, pas uniquement BFM, bah, je pense, n'est visé, hein. Et on y reviendra. Il y a quand même cet appel du patron de Reporters sans frontières qui parle d'une atteinte au droit à l'information des citoyens concernant cette conférence
oui,
de presse.
Parce que
précisément, vous balayez complètement
mais non,
cette critique.
Mais parce que je pense qu'il se trompe, c'est-à-dire qu'il donne l'impression que nous aurions trié ou sélectionné
ce qui a été
entre les journalistes.
Mais non, vous faites tout, un choix, encore
madame,
une
madame,
fois.
Madame, quand vous faites un rendez-vous avec la presse internationale, mm-hmm. Vous invitez la presse internationale et personne ne va vous dire vous avez trié, vous avez choisi que la presse internationale. Donc on fait des événements pour la presse internationale, on peut faire des événements pour les nouveaux médias et puis on fait des événements pour les médias traditionnels.
Et vous
traditionnels.
Êtes là ce matin pour répondre à nos questions.
Et ben voilà, donc c'est bien
questions.
La preuve qu'il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Maintenant, si vous voulez que je revienne là-dessus, j'assume pleinement les critiques que je peux avoir vis-à-vis des médias politiques traditionnels.
Et vous assumez aussi, pardonnez-moi, parce qu'on va
je
revenir sur notre
allez-y.
Traitement, pardonnez-moi, juste, mais des mots qui nous ont particulièrement... choqué
allez-y.
De la part de la candidate à Paris, Sophia Chikirou, qui hier ou avant-hier parle particulièrement durement. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte, vous êtes des petits agents, ce que Simone Veil, cite-t-elle, appelait les nazis à petits pieds. Est-ce que vous cautionnez, vous souscrivez cette
mais
description-là,
madame,
ou vous désolidarisez, à l'instar
pas.
D'ailleurs de votre candidate à Lyon, hier
oui,
soir,
mais précisément,
qui ne partage pas du tout ces
propos.
Oui,
mais précisément, pardonnez-moi, mais il faut être un peu vigilant. Je parlais d'un traitement médiatique que je considère problématique. Là, pardonnez-moi, mais en fait, la démonstration, parce que...
En quoi
parce que la citation qui a été attribuée à Sophia Chikirou ne correspond pas à ce qu'elle a dit. En tout cas, la question qui a été posée hier à ma candidate, la candidate soutenue par la France Insoumise, Anaïs Beloua-Sacherifi à Lyon, ne correspondait pas à ce qu'a dit Sophia Chikirou, c'est-à-dire la question qui a été posée à Anaïs Beloua-Sacherifi, c'est Sophia Chikirou a dit que les médias, que les journalistes étaient des nazis, est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment, Sophia Chikirou n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'il y avait des militants d'extrême droite dans les médias et que sa volonté c'était de les chasser. Et si vous avez l'impression que ça
mais
ne correspond
que par
pas à la réalité,
il n'y a pas une volonté encore une fois d'enflammer encore une fois alors que le temps peut-être est un peu à l'apaisement et on
pas,
va y
madame,
revenir.
Absolument pas. Écoutez, qu'il y ait des militants d'extrême droite dans les médias et que nous ayons le droit de les combattre, ça me paraît être quand même le principe de la démocratie. Quand vous avez un groupe médiatique qui s'est constitué, qui a à sa tête Monsieur Bolloré, qui dit lui-même qu'il veut utiliser ses outils médiatiques pour mener une croisade idéologique et civilisationnelle. Si cette réalité-là, elle vous échappe, pardonnez-moi, à moi, elle ne m'échappe pas.
Et encore une
donc,
fois,
oui, il y a des militants d'extrême droite dans les médias.
Mais vous maîtrisez
et je pense qu'il faut les combattre.
Particulièrement les mots, le mot de nazi à petits pieds.
Mais
ces mots ont un sens. Ces mots ont un écho très particulier.
Après,
aussi.
Si vous voulez qu'on parle de ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez sur ces groupes médiatiques, en quelque sorte, la table qui est servie pour des militants d'extrême droite, qui pour certains d'entre eux, effectivement, on est des nostalgies avec des groupes néo-nazis, pardonnez-moi, le problème, c'est pas que je le dise. Le problème, c'est que ça existe.
Et on reviendra notamment sur cette réunion qui s'est tenue hier à l'Élysée sur la volonté de s'attaquer à cette question une nouvelle fois, et la dissolution de groupes d'extrême droite. D'abord, j'aimerais vous parler de Raphaël Arnaud. Séance hier à l'Assemblée nationale. Pas de Raphaël Arnaud au Palais Bourbon, absent depuis quasiment 15 jours. J'imagine que vous êtes en contact avec lui. J'ai envie de vous demander ce matin, comment va-t-il ?
Il va pas bien. Je pense que comme tout le monde, il est d'abord dévasté par le drame qui a eu lieu à Lyon. Vous savez, Raphaël Arnaud, ça fait partie des militantes et des militants qui ont commencé leur engagement à Lyon contre précisément la violence. Et contre le fait.
Co-fondateur de la Jeune Garde,
exactement,
je le précise.
Et contre le fait qu'à Lyon, depuis des années et des années, vous avez des groupuscules d'extrême droite qui attaquent des manifestations, qui s'en prennent à des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur couleur de peau, et qu'il y a des militants qui se sont organisés pour faire en sorte qu'on puisse tenir des manifestations.
Ça, j'entends parfaitement.
Ben voilà.
Mais sur,
donc,
sur la, sur
attendez,
le silence.
Je vais vous répondre jusqu'au bout, regardez.
Sur le silence de votre parlementaire.
Non, mais attendez,
de
après,
votre
je parlerai,
collègue.
Si vous voulez, de ce que vous appelez son silence. Un silence avec deux tweets, donc je sais pas si vous appelez ça
mais
vraiment
enfin,
un silence.
En effet, au contrat avec ses assistants parlementaires mis en cause.
D'abord, en disant sa compassion pour la famille de Quentin Dérenque, et deuxièmement, en disant que, évidemment, c'était ce qu'il redoutait depuis des années et des années à Lyon, que ces affrontements se terminent par un drame. Donc, Raphaël Arnaud, il est comme tout le monde, il est dévasté par cette situation. Maintenant, effectivement, il n'est pas venu à l'Assemblée nationale hier. Pourquoi ? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis que son nom a été jeté en pâture par des militants d'extrême droite, puis relayé dans un certain nombre de médias, faisant fi de la présomption d'innocence, faisant fi du fait qu'il n'est concerné par aucune enquête judiciaire, bah, Raphaël Arnaud, il reçoit tous les jours des menaces de mort sur la scène nationale comme sur la scène internationale.
Et ce n'est pas le seul d'ailleurs dans votre parti.
Évidemment que ce n'est pas le seul. Et donc oui, évidemment, il se protège.
A-t-il officiellement, avec ces menaces de mort, été placé sous protection policière ou en avez-vous fait la demande?
Je ne crois pas et pardonnez-moi, je comprends que vous me posiez la question, mais vous comprendrez que sur des questions aussi sensibles, le moins de choses on dit publiquement et plus on protège la personne qui en est ciblée.
Oui, vous faites bloc autour de lui depuis le début.
Heureusement.
Vous avez dit que finalement, un salarié ne devait pas finalement rendre des comptes, peut-être à son, en l'occurrence là,
non,
député.
Rendre des comptes, il doit rendre des comptes.
Vous disiez encore une fois il y a quelques jours que, au motif qu'il ne saurait être tenu responsable des actes de ses salariés, Raphaël Arnaud, de ce qu'a fait notamment Jacques-Élie Favreau, pourquoi il serait mis en retrait ou pourquoi il devrait démissionner. Ça, c'est votre ligne depuis le début.
Mais c'est au-delà de base,
sans doute. Mais au-delà de ça, la vie politique, la vie publique est faite aussi de symboles.
Oui.
Est-ce que finalement, ça n'apaiserait pas? Vous ne pensez pas que c'est un début de réponse à l'apaisement, demandé par votre camp, demandé par les autres, de lui demander justement de se mettre en retrait? Est-ce que ce n'est pas une forme de suite logique?
Mais absolument pas, madame. Enfin, écoutez, il y a un principe quand même, qui est un principe élémentaire dans notre société, c'est la responsabilité individuelle des actes qui sont commis. Mmh. Raphaël Arnaud, il n'est concerné par aucune enquête judiciaire, il n'a aucune responsabilité dans le drame qui a eu lieu à Lyon.
Mais du symbole.
Mais le symbole, madame, mais c'est pas du symbole. Lui, ses positions politiques à Raphaël Arnaud, elles sont connues de longue date. Il a toujours dit que lui, il rejetait la violence comme méthode de, politique. Donc ne dites pas qu'il a rien fait, il n'a pas rien fait. À partir du moment où son collaborateur a été impliqué dans cette affaire, après, on verra quelle est sa responsabilité, telle qu'elle sera déterminée par la justice. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de principes en France, notamment la présomption d'innocence, notamment le secret de l'enquête.
Et une enquête est toujours en cours.
Oui, mais ça fait depuis 10 jours.
Ça
fait depuis 10 jours que j'ai bien compris que ces principes, ils avaient été complètement bazardés. C'est-à-dire que désormais, on considère que parce qu'une personne est auditionnée ou qu'elle est mise en examen, elle est évidemment coupable. Non, d'abord, on n'en sait rien. Et deuxièmement, Raphaël Arnaud, lui, il a pris des mesures.
Mais vous constaterez notamment que des propos qui ont été imputé à son assistant parlementaire en garde à vue ont été démentis et on a pu vérifier qu'ils n'ont pas été prononcés.
Voilà, mais c'est pourquoi il faut être extrêmement prudent.
Absolument.
Et je trouve que depuis 10 jours, pardonnez-moi de vous le dire, une partie, je dis pas tout le monde, mais une partie de la classe médiatique a fait absolument pas preuve de la prudence nécessaire. Et le gouvernement, qui normalement est astreint à un certain nombre de principes, et notamment un principe de séparation des pouvoirs, s'est allègrement assis sur ce principe. Et ben moi, pardonnez-moi, mais s'il doit y avoir une dernière personne dans ce pays qui défend la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction, s'il doit y en avoir une dernière, ça sera moi, parce que je pense que c'est des principes élémentaires dans un état de droit.
Juste une question, dernière question sur Raphaël Arnaud. Mmh. A-t-il prévu à un moment donné, pardonnez-moi, de s'exprimer?
Mais d'abord, il s'est déjà exprimé à 2 reprises. Donc il s'est déjà exprimé à 2 reprises. Ensuite, je pense qu'il s'exprimera à nouveau, mais c'est lui qui décidera dans quel calendrier il a envie de s'exprimer. Et encore une fois, je pense qu'il a dit sa compassion, il a dit son émotion après ce qui s'est passé à Lyon. Il a pris les mesures nécessaires pour se séparer d'un collaborateur qui est mis en cause dans cette affaire. Je vois pas pourquoi on continue à venir lui chercher à lui des noises, pardonnez-moi, et que ça vienne
parce
de madame.
Parce qu'il est député, il est élu de la nation et qu'il doit peut-être à un moment donné rendre des comptes.
Je pense que les comptes, il les a rendus, il continuera à les rendre parce qu'évidemment, mais on rend ses comptes à ses électrices et à ses électeurs. Et quand on est un député d'opposition, c'est certainement pas à Madame Bréjon, porte-parole du gouvernement, que nous avons à rendre des comptes. Parce que Madame Bréjon, qu'elle s'occupe d'être porte-parole du gouvernement et qu'elle aspire pas à organiser les groupes d'opposition.
Comptes,
parce que moi,
si
j'organise mes groupes d'opposition
Manuel
comme
Bompard,
on veut.
Ils n'auront pas non plus à ses électeurs et ses électrices, en l'occurrence.
Mais si, évidemment qu'ils rendent compte à ses électrices et ses électeurs.
Sur le climat actuel, j'ai peur que ça se termine très mal pour l'un d'entre nous. C'est les mots d'Éric Coquerel, votre collègue insoumis. Vous partagez cette crainte, partagez cette peur.
Quand vous êtes mis en cause de manière absolument abjecte et de manière absolument infondée, comme c'est le cas depuis 10 jours, en expliquant partout qu'il y a un lien entre la France insoumise et le drame drame qui a eu lieu à Lyon, comme si on avait en quelque sorte une responsabilité dans ce drame, bah ça a des conséquences très concrètes. Les conséquences très concrètes, c'est des permanences parlementaires qui sont attaquées, des locaux de campagne qui sont attaqués, des candidats tête de liste de la France Insoumise aux élections municipales qu'on va chasser dans leur domicile pour mettre des tags à l'entrée de leur appartement ou de leur maison. Donc oui, évidemment qu'on est tous très inquiets de cette situation.
Dans cette campagne justement, précisément, est-ce que vous avez certains de vos candidats qui s'interrogent sur leur engagement?
Ah, certainement pas. Parce
certainement
que,
pas.
Certainement
ça
pas.
Ça ne les fait pas du tout renoncer.
Ah non,
ce
au contraire, ça nous fait de plus que jamais avoir conscience de la nécessité de mener la bataille contre l'extrême droite et la bataille antifasciste, parce que ces menaces, elles viennent évidemment des réseaux d'extrême droite. Et donc moi, ça renforce ma détermination, ma vigueur. Et d'ailleurs, ça renforce la détermination et la vigueur d'un grand nombre de citoyens, parce que contrairement à ce que certains d'entre vous semblent croire, si vous pensez que ça isole la France insoumise dans le peuple français, ce qui est en train de se passer, c'est précisément l'inverse. Vous savez, la semaine dernière,
même si les sondages disent que le barrage envers LFI aux prochaines municipales,
il y a eu 3 sondages municipaux qui ont été sortis depuis le drame de Lyon. On a gagné 4 points à Toulouse, 2 points à Avignon et 1 point à Lyon.
Et donc, vous en tirez quel enseignement?
Mais j'en tire comme enseignement qu'il y a des réflexes antifascistes qui sont très profondément ancrés à l'intérieur du peuple français et qui comprend bien dans cette situation que face à une dérive et à une instrumentalisation absolument indigne de ce qui est en train de se passer, qui produit une dérive fascisante d'une partie de la scène politique quand même, quand vous avez la candidate des Républicains à la mairie de Marseille qui reprend à son compte la devise qui était la devise de la collaboration, quand vous avez Madame Berger, quand vous avez Madame Berger, ministre du gouvernement, qui reprend à son compte l'anti-France, qui est un concept qui a été forgé par Charles Maurras, qui a été repris par la collaboration pour désigner les juifs et les étrangers, qui reprend ce concept-là à son compte, eh ben, il y a plein de gens qui se disent, oh là, on va pas laisser faire comme ça. Et donc, vous avez, par exemple, à la France Insoumise, la semaine dernière, 2500 personnes qui ont décidé de rejoindre la France Insoumise. C'est 10 fois plus que la semaine précédente.
2500 personnes en 10
fois plus que la semaine précédente.
D'inscription pour votre parti.
Et voilà.
Sur
ça a des conséquences aussi, c'est qu'il y a des réflexes antifascistes dans ce pays. Et moi, j'appelle les gens qui veulent mener cette bataille et cette lutte implacable à nous rejoindre, parce qu'on a besoin de force dans
en appelant aussi peut-être à calmer le jeu. Vous aussi, vous faites partie du débat public et politique. Jean-Luc Mélenchon doit normalement se rendre à Lyon demain, je crois, pour un grand meeting. Est-ce que vous avez eu des alertes des autorités de crainte de débordement?
On organise comme toujours dans tous nos meetings. Tous nos meetings se sont toujours bien passés, malgré le fait qu'ils ont fait l'objet d'un certain nombre de tentatives de perturbation.
On n'a pas tenté de vous dissuader d'aller sur place.
Non, et je vois pas pourquoi on dissuaderait d'aller sur place alors que la campagne électorale des élections municipales est en cours. Quant à calmer le jeu, madame, moi, je veux être très clair. Moi, mes moyens d'action, y compris contre l'extrême droite, c'est des moyens d'action démocratiques, larges, pacifiques. Et c'est pourquoi j'appelle tous les gens à utiliser leur bulletin de vote, notamment le 15 et le 22 mars prochain à l'occasion des élections municipales, pour en faire aussi un vote de résistance antifasciste.
J'évoquais cette réunion qui s'est tenue autour du chef de l'État Emmanuel Macron hier à l'Élysée, sur ces mouvances extrémistes d'extrême droite ou d'extrême gauche, en présence notamment du ministre de l'Intérieur ou du garde des Sceaux. Est-ce que vous saluez l'initiative? Vous avez évoqué tout à l'heure l'absence, vous déploriez l'absence de séparation des pouvoirs, si je vous entends. Une réunion qui devait se tenir.
C'est surtout que c'est d'une hypocrisie absolue, madame.
Pourquoi?
Parce que vous réunissez le mardi en disant que vous allez dissoudre un certain nombre de groupes, et notamment un certain nombre de groupes d'extrême droite, alors que le samedi, vous les avez laissés défiler dans les rues de Lyon et faire une parade néo-nazie dans laquelle vous aviez des saluts nazis, des insultes homophobes et des insultes racistes.
La décision a été prise de dissoudre 4 nouvelles structures, dont 3 d'ultra-droite et 1 d'ultra-gauche.
Par exemple, tout le monde sait à Lyon qu'il y a un groupe qui s'appelle maintenant Audace Lyon, qui avant s'appelait Lyon Populaire, qui a été reconstitué, et qui a un groupe à l'origine d'un certain nombre d'agressions qui ont lieu, en particulier dans le Vieux-Lyon, des agressions racistes, des agressions homophobes. Et ces gens-là, on les a laissés défiler dans la rue samedi. Et maintenant, 2 jours après, on va dire qu'on va faire des dissolutions, mais pas eux.
Mais
donc je trouve que c'est d'une hypocrisie absolue, pour vous dire les choses franchement.
Hypocrisie absolue, mais décision a aussi été prise de saisir la justice pour reconstitution de ligue dissoute concernant le mouvement cofondé par Raphaël Arnoult, la jeune garde. Vous dites quoi ce matin? Que la justice fasse son travail? Vous aiderez la justice peut-être?
Si la justice a besoin de... Enfin, je ne sais pas si elle a besoin d'aide, mais c'est d'abord une décision du ministre de l'Intérieur que je trouve assez opportuniste politiquement, parce que si le ministère
après,
de
l'Intérieur... Après, il y a des faits qui sont posés.
Oui, mais justement, madame, les faits dont il est question, c'est qu'il y aurait eu des réunions dans plusieurs villes. Alors, pourquoi avoir attendu le drame de Lyon, si c'était effectivement le cas, pour poser cette question à la justice? Vous voyez bien que c'est un calendrier politique qui vise à tout prix à essayer d'imputer à la jeune garde en tant qu'organisation une responsabilité dans le drame de Lyon. Encore ce qu'aujourd'hui, rien dans l'enquête ne dit d'ailleurs.
Encore une fois, je le dis, trois mouvements du
ultra-droite
ont appelé à être dissous.
Mais le problème, c'est que vous voyez bien que les dissolutions, bon, d'abord, c'est une décision arbitraire d'un ministre. Moi, je suis pour les dissolutions judiciaires. C'est à la justice de faire son travail. Et deuxièmement, vous voyez bien
arbitraire,
qu'une dissolution.
Pardonnez-moi, c'est fait en coordination aussi avec les autorités, avec le renseignement. Ouais,
mais c'est pas une décision de justice, madame. C'est une décision qui est prise par le ministre de l'Intérieur.
Et après, la justice fait son travail aussi.
Ah, bah, pas sur les dissolutions. Sur les dissolutions, vous avez ensuite la possibilité de faire un recours auprès du Conseil d'État. Et notamment, il y a eu un an une dissolution, une annonce de dissolution de la jeune garde qui à l'époque s'appuyait sur des motifs qui étaient des motifs absolument
sur laquelle d'ailleurs vous avez vous-même fait un recours et
qui est toujours en train fait. Nous avons soutenu le recours qui avait été fait parce que en 8 ans il n'y avait aucune condamnation d'aucun fait par rapport à la jeune garde.
Manuel Bompard, le temps file très vite, mais on est effectivement à quelques semaines de ces élections municipales. Concernant votre stratégie, les critiques de vos anciens alliés, notamment socialistes, sont extrêmement vives. Quel est votre positionnement? Parce que Jean-Luc Mélenchon, justement, à cette conférence de presse à laquelle nous n'étions pas conviés, a parlé de néanmoins fusion technique possible avec des partis de gauche. Ça veut dire quoi exactement?
Alors, je vais vous dire, nos positions, elles sont très simples. Nos positions, c'est de dire aux électrices et aux électeurs, partout où vous nous mettrez en tête, à gauche, au soir de l'élection municipale, et partout où il y aura un risque que la droite et l'extrême droite s'emparent des villes, nous organiserons le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'une ville dirigée par la droite, qui est de plus en plus extrémisée, ou par l'extrême droite, c'est
donc
un
des alliances
problème.
Avec le Parti Socialiste,
nous, on proposera
tout
à toute la gauche de se rassembler partout où on arrivera en tête. Là où on n'arrivera pas en tête, il appartiendra...
Malgré les querelles.
Écoutez, franchement, il y a un certain nombre de dirigeants du Parti Socialiste qui ont fait de mon point de vue, une faute historique majeure. De mettre sur le même plan des fascistes et des antifascistes. Pourquoi on demandera un certain nombre de garanties, madame?
Et vous en expliquerez avec eux.
Attendez, c'est pourquoi on demandera un certain nombre de garanties, madame. Le rassemblement, il n'est possible qu'avec des gens qui disent clairement au deuxième tour d'une élection comme l'élection présidentielle qui voteront à gauche face à l'extrême droite. Pas qui feront du nini. Donc ça sera des clarifications qu'on demandera. Et sans ces clarifications-là, ça me paraît extrêmement difficile d'avoir quelques rassemblements que ce soit.
À la fin de cet entretien, juste une clarification. Motion de censure étudiée aujourd'hui, déposée par votre groupe, mais également déposée par le Rassemblement National. On a appris hier que le RN ne voterait pas la motion insoumise compte tenu du climat politique. Il ne nous est pas possible de voter une motion. Vous dites quoi? Bon débarras? Vive la clarification
non, je dis
là aussi
pas, je dis que c'est pas nouveau que le Rassemblement National cherche tous les prétextes possibles pour essayer d'empêcher de faire tomber le gouvernement. Maintenant, il y a effectivement une motion de censure. Pourquoi? Parce que le gouvernement décide tout seul ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire des décisions,
qui est passé par décret,
des décisions majeures qui engagent des dizaines de milliards d'euros d'investissement, qui veut nous amener dans un tout nucléaire avec des nouveaux EPR alors qu'on a besoin de développer les énergies renouvelables, qui ralentit le rythme de développement des énergies renouvelables, et il le décide tout seul.
Merci.
Et ben ça, c'est pas normal, donc on censure le gouvernement.
Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Il est 8h47 sur BFM et RMC.
Merci Marie Chantret. Dans un instant, on va sourire avec Nicolas Canteloup, face à Canteloup sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Michel-Édouard Leclerc était l'invité d'Apolline dans le face-à-face. Souvenez-vous, il était resté face à Canteloup.
Rebonjour, moi je vote Canteloup.
Si vous l'entendez, un moment de bourse, souhaitez vous dire un mot, Michel-Édouard Leclerc.
Salut la compagnie. Bonjour Michel-Édouard, mon collègue entrepreneur.
Voilà.
Hein. Bon, Michel-Édouard, il y a un truc que je comprends pas. T'as la vista, on le sait. Je comprends pas que t'aies laissé Intermarché s'approprier l'image du loup. Alors que t'es quand même beaucoup plus légitime qu'eux. En plus, t'es breton, tu peux faire plus fort qu'eux. Tu fais le loup, le renard et la belette. Bon, bref, parlons de ce qui intéresse tout le monde. Hein, et c'est de savoir si t'y vas ou t'y vas pas. Je parle pas d'ouvrir des supermarchés Leclerc au Groenland. Hein, on parle de bien 2027. Hein, quoi, à propos du Groenland, en parlant de ça, vous savez que j'ai été contacté par la marque Picard.
Non.
Pour développer des supermarchés au Groenland. Et j'ai, ben oui, et là, c'est une super idée. J'ai décidé de déployer tout ça, Picard au Groenland, parce que t'économises sur la chaîne du froid. J'ai toujours un coup d'avance. Bon, écoute, Michel-Edouard, je te laisse réfléchir pour le 2027 et surtout pour le loup, le renard et la volaille.
Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire.
C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri et des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Personne, jamais personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges.
Bon, en tout cas, c'est fichu pour l'Élysée, là.
Oui, attendez, comment c'est foutu pour l'Élysée? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Attendez, il y a 2032.
Ah, oui, c'est vrai. Oui.
Alors, Jordan, il prend le job en 2007, mais maman reprend la boutique en 2032.
Ah, voilà. D'accord.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça?
Non,
Non, mais écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans.
Pour faire un point donc sur la situation de notre pays, nous recevons Emmanuel Macron. Monsieur le Président, bonjour. Après une longue séquence à l'international, vous enchaînez depuis plusieurs jours des déplacements en France.
Oui, c'est vrai, chère Apolline de Malherbe, que depuis un an, parmi tous mes voyages à l'étranger, le pays dans lequel je suis le moins allé, je crois que c'est la France.
Ah oui.
Donc j'essaye de me rattraper. Lundi, c'est vrai que j'étais au Salon du Vin, j'ai lancé une cuvée for sure. C'était une réalité, c'est vrai, c'est pas une fausse info. Hier, j'ai inauguré un four électrique à Dunkerque. Demain, grosse journée, je suis à Bar-le-Duc pour la mise en service d'un lave-vaisselle. Vendredi, je suis à Niort pour inaugurer le nouveau rond-point Franck Michael. Et samedi, je donnerai le coup d'envoi de la médiathèque à Didrami à Châteauroux. Vous voyez, on peut œuvrer à l'international, mais aussi être au plus proche des Français.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait la même envergure quand même quand vous occupez d'international.
Ah, ben là, ça, chère Apolline de Malherbe, je suis bien d'accord avec vous.
Bien sûr.
Ah mais ça c'est vrai que ça s'est un peu calmé, hein, Monsieur Marshall, nous en parlions ensemble dans une vision dans les couloirs, le Groenland, le Venezuela, l'Iran, il y a plus grand chose à faire là-dessus, c'est vrai que ça roule. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, chaque jour. J'espère que Trump va faire une nouvelle dinguerie.
Voilà.
Mais oui, mais c'est ça qui me permet d'exister. Du coup, il faudrait presque qu'en off, je pousse mon Donald à attaquer l'Iran ou envahir le Canada.
Patrick Bruel lance une nouvelle tournée intitulée « Alors regarde 35 ». Elle fête les 35 ans de son album culte « Alors regarde » qui lançait la Bruel Mania.
C'est fou cet album. Il y avait que des tubes, alors regarde, place des grands hommes, je te lis quand même, casser la voix, et que des tubes.
Oui, ben on oublie effectivement, c'est la ferveur de l'époque. Une fois que vous avez même dû être escorté par la police, c'était dingue.
Ouais.
Vous mangiez dans une pizzeria sur les Champs-Élysées, vous avez été obligé de...
Je m'en souviens comme si c'était hier, il y a des milliers de filles qui s'est passé le mot et qui m'attendaient devant le resto, il y avait une émeute, impossible de sortir, j'ai dû appeler la police.
Donc 35 ans se sont passés, vous lancez une tournée pour fêter ça, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Ouais, mais honnêtement Apolline, je vais dire, j'ai une petite appréhension quand même, toujours une petite peur, quand même une petite peur.
Peur de quoi? Que le public soit pas au rendez-vous?
Non, que le même public soit au rendez-vous. Non, parce que tu comprends, les filles qui criaient Patrick, à l'époque, elles avaient 25 ans, et 35 ans plus tard, elles en ont 60. Putain, t'imagines l'angoisse si demain je vais manger dans une pizzeria et là que je suis bloqué par des milliers de petites vieilles qui m'attendaient à sortir.
Ça, c'est moins de l'amour.
Oh putain, j'ai l'image. Une marée humaine de cheveux bleus qui soulèvent leur déambulateur et qui me jettent leurs dentiers en criant hey, cake, hein? Oui, parce que sans leur dentier, on comprend pas que dalle de ce qu'elle dit.
Hein? Ouais. Ça vous fait
pourquoi,
le
quiz. Non, mais pourquoi j'ai fait cette tournée? Tu crois que je peux annuler?
Non, mais ça va être très bien, Patrick. Et puis, vous allez chanter votre tube. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, mais enfin, quand tu donnes rendez-vous dans 10 ans à une fille de 25 ans, c'est cool. Mais une fille de 60, hein, c'est pas sûr qu'elle soit encore là dans 10 ans. Hein. Même jour, même heure, même pomme. Mais il y a des risques qu'elle soit flétrie, la pomme.
Merci, Patrick. Tiens, dans mon bout, vous êtes de retour.
Oh,
pourquoi vous revenez?
Oh oui, j'ai entendu le Gabruel.
Ouais, le Gabruel.
Et ça m'a donné une super idée pour Micha et Edouard.
Ouais.
Une idée 3 en 1. Tu récupères l'image du loup, tu niques Intermarché et tu te positionnes pour 2027. Vous êtes prêts?
Oui, on est prêts. Oui,
3-4.
J'ai besoin quand même, tout le monde le comprend. Une marque repère, c'est pas marrant. Marton m'interroge sur le prix d'une plaque de beurre, le prix d'une boîte de salsifis. Car aujourd'hui, je pense à l'Élysée. Je pense à l'Élysée. Les gens me connaissent grâce aux rayons produits frais. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies et cette envie de pouvoir cacher au fond de moi.
Oh, 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 exceptionnel.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup, que l'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Alain Marchal. Bonjour Alain, quel est le programme?
On va avoir de sacrées discussions dans les GG, dans les grandes gueules, avec Charles Consigny, Antoine Dier, Céline Dumont. On va revenir sur ce qu'a dit la candidate à la mairie de Paris, vous savez, Sophia Chikirou, candidate pour la LFI. Elle estime que les fascistes aujourd'hui ont envahi les plateaux télé. Et qu'il faut les dénoncer, il faut les virer des plateaux télé. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On reparlera aussi de cette volonté de dissolution des groupes violents. Là, en ce moment, c'est les groupes de droite nationaliste qui sont dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que ça peut être efficace, la dissolution? Oui ou non? Vous venez commenter ça avec les GG au 32-16. Et puis, nous recevrons aussi dans les grandes gueules l'ancien enquêteur de l'Office central cybercrime de la police judiciaire. Il s'appelle Gilles Galou. Et il a enquêté sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il pense savoir où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès, outre-Atlantique. Pourquoi? Quels sont les éléments dont il dispose? Eh bien, vous venez écouter ça dans les GG, dans les grandes gueules, dans un instant.